France Culture.
Et le journal vous est présenté par Véronique Rebérotte. Bonsoir Véronique.
Bonsoir. Le surendettement est une malédiction qui n'a pas d'issue pour une France devenue accro à la dépense publique. Les mots de François Bayrou. Il a présenté son budget 2026. On parlera bien sûr en détail de ce qu'a annoncé le Premier ministre dans ce journal avec nos spécialistes maison Camille Magnard, Rosalie Lafarge et Wafia Kenich pour les premières réactions. À l'étranger, la rive nord du Grand Canyon est en feu. Saison touristique terminée pour une partie de ce site d'Arizona qui a dû être en partie évacuée de ses nombreux touristes. 4 ans et 3 mois de prison ferme pour deux Britanniques qui avaient tronçonné l'arbre le plus célèbre de Grande-Bretagne. Sévère, mais mérité, nous dira à Londres Laura Kalmus. Sur son pupitre, on pouvait lire « Le moment de vérité », assurément un moment difficile, grave pour François Bayrou. Ponctuel à 16h pile, le Premier ministre a commencé à détailler les grandes orientations du budget 2026 avec, on le sait, quelques 40 milliards d'euros d'économies à trouver pour amener notre déficit public à 4,6% du PIB. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Véronique.
Vous avez suivi attentivement l'intervention du Premier ministre qui a décrit, ce sont ses mots, une France donc accro à la dépense publique. Et ce sont finalement deux plans que François Bayrou a détaillés pour remettre la France sur de bons rails budgétaires.
Deux plans, oui, sobrement baptisés « Stop à la dette » et « En avant la production ». Car François Bayrou et Emmanuel Macron l'ont beaucoup dit ces derniers mois, il ne suffira pas de tailler dans les dépenses publiques, il faut aussi que les Français travaillent plus, on va y venir. Côté « Stop à la dette », le Premier ministre n'a semble-t-il pas voulu choisir entre les différentes pistes évoquées ces derniers jours, mais il les a additionnées pour arriver, dit-il, à 43,8 milliards d'euros d'économies pour l'an prochain. Tout le monde va être mis à contribution, à commencer, c'est vrai, par les fonctionnaires. François Bayrou veut supprimer 3000 postes en plus des postes de professeurs déjà dans le viseur et un principe fort, le non-remplacement d'un poste sur trois en cas de départ à la retraite. On nous annonce aussi une baisse des participations de l'État dans les entreprises dont il est actionnaire, mais sans perte d'influence, assure François Bayrou. Des agences et opérateurs de l'État devront fusionner, disparaître ou bien se réorganiser pour réduire leurs coûts et supprimer là 1000 emplois publics. Et dans le cadre de l'année blanche qui est bien confirmée par le Premier ministre, les traitements des fonctionnaires seront gelés, comme toutes les prestations sociales en fait, barème de l'impôt sur le revenu et CSG aussi. Ils ne seront pas réactualisés par rapport à l'inflation l'an prochain, donc ce sont des hausses en fait d'impôts qui ne disent pas leur nom pour des dizaines de milliers de foyers. Un volet majeur aussi, c'est l'objectif de baisse des dépenses de santé à hauteur de 5 milliards d'euros par des baisses de remboursement pour ceux qui consomment le plus de médicaments, pour les affections de longue durée dans certains cas, plus de prévention, nous dit-on, par la vaccination notamment, plus de contrôle enfin pour les arrêts maladie dont le nombre explose et des visites préalables à une reprise de travail après des arrêts de 30 jours qui pourront être faites par le médecin de ville et plus seulement par la médecine du travail.
Alors petit calcul rapide, avec ce premier volet de mesures, François Bayrou parle de 21 milliards de dépenses évitées l'an prochain, donc le compte de 43 milliards d'euros n'y est pas, Camille.
Non, et c'est pour ça que François Bayrou lance aussi le volet « En avant la production ». On en parlait, où il se fait fort de réconcilier les Français avec le travail et fort d'inverser aussi la balance commerciale de notre pays très déficitaire depuis des années. Pour cela, le Premier ministre propose de supprimer 2 jours fériés, par exemple le lundi de Pâques et le 8 mai, renvoyer les partenaires sociaux aussi à la table des négociations pour réformer une nouvelle fois l'assurance chômage. Il nous faut, dit encore François Bayrou, que le retour à l'emploi prime sur le maintien au chômage. Il faut enfin, pour le chef du gouvernement, reconfigurer notre système social, rien de moins pour que ce soit moins sur le travail que pèse la solidarité nationale. Pas plus de propositions précises là-dessus à ce stade. Celle d'une TVA sociale, par exemple, n'est pas clairement évoquée, mais François Bayrou veut redonner de la liberté, dit-il, aux entreprises, face aux normes et aux procédures administratives qui les asphyxient. Pour cela, il leur propose un accord gagnant-gagnant, moins de normes contre moins de subventions et d'aides publiques, chiffrées la semaine dernière, on s'en souvient, à 211 milliards par an par une commission d'enquête au Sénat. Le gouvernement veut donc légiférer par ordonnance pour plus de simplification dès cet automne pour faire sauter des normes administratives.
Merci Camille Magnard. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Simple journaliste au service politique de France Culture. François Bayrou, une fois de plus, dramatise pour tenter d'expliquer que si on ne suit pas son plan, plutôt ses deux plans, on va droit dans le mur.
Oui, le moment de vérité, ce n'est pas écrit que sur son pupitre. Dans les mots, François Bayrou use du même registre, celui, oui, de la dramatisation.
C'est notre moment de vérité.
Je dis moment critique parce que l'urgence est là.
C'est une malédiction qui n'a pas d'issue.
Je crois que c'est la dernière station avant la falaise. Et l'écrasement par la dette, un danger mortel pour un pays.
Une bonne partie du gouvernement est là, en soutien du Premier ministre qui tente la pédagogie.
3 300 milliards, c'est 3 300 fois 1 000 millions d'euros. Chaque seconde qui passe, la dette de la France augmente de 5 000 euros.
Parlez simplement pour que chacun puisse comprendre, conscient de la complexité de la situation politique. François Bayrou s'adresse avant tout aux Français et le redit, chacun va devoir contribuer.
Il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau.
Mais même s'il arrivait à convaincre les Français, le chef du gouvernement sait aussi que c'est un mur politique qui l'attend à l'automne au Parlement. Et peu importe qu'il ait consulté tout le monde en amont et qu'il promette de continuer à le faire.
Il n'y a que des risques. Le gouvernement n'a pas de majorité. Il sait parfaitement qu'il est à la merci des oppositions, autant que, ici ou là, des doutes de ses soutiens. Mais le gouvernement a le devoir de renverser les obstacles.
Manière de placer chacun face à ses responsabilités. Lui promet de prendre les siennes, de ne rien lâcher et tant pis s'il tombe avec son budget.
Merci Rosalie Lafarge. Nous ne laisserons pas le Premier ministre mener une politique de casse. Première réaction de la CGT. On écoute Denis Gravouille, c'est le secrétaire confédéral de la CGT, joint par Wafia Kenich.
C'est la plus violente attaque que nous ayons eue depuis plusieurs années. Contre les services publics, contre les droits sociaux. Contre les services publics, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur trois, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire fonctionner les services publics qui sont déjà à mal, par exemple les urgences, par exemple les hôpitaux. Et puis, sur les droits sociaux, c'est une attaque d'une ampleur considérable. Deux jours fériés en moins, une nouvelle attaque sur l'assurance chômage, alors qu'il y a eu un accord il y a 6 mois. Faire croire que c'est les droits à l'assurance chômage qui empêchent les gens de travailler, alors qu'il y a plusieurs millions de personnes qui sont inscrites à France Travail et qu'il y en a seulement 4 sur 10 qui sont indemnisées, c'est bien la preuve que c'est pas l'assurance chômage qui empêche les gens de travailler, mais l'absence d'emploi à cause d'une politique industrielle catastrophique et un plan d'austérité qui existe déjà sur les services publics.
Et le budget 2026 sera donc présenté à l'automne prochain au Parlement avec le risque, bien sûr, d'une motion de censure pour François Bayrou. Son corps a été découvert tôt ce matin, un migrant, sans plus de précision, est mort après être vraisemblablement tombé d'un poids lourd dans une zone d'activité à Marc, près de Calais. Des migrants désireux de gagner la Grande-Bretagne gravitent souvent autour de cette zone d'activité logistique et de transport, en espérant pouvoir monter dans la remorque d'un camion et rejoindre ainsi l'Angleterre par le tunnel de la Manche. C'était un grand spécialiste du régime de Vichy et de la Résistance. L'historien Jean-Pierre Azéma est décédé hier à Paris. Il avait 87 ans. Fils d'un collaborationniste qui avait fui la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Pierre Azéma a lui-même consacré l'essentiel de son travail à l'étude de cette période. Les précisions de Pierre Robert.
Si Jean-Pierre Azéma était l'un des grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi car l'histoire tenait ici, pour lui, de l'héritage familial. Jean-Pierre Azéma, né à Paris en septembre 1937, son père, Jean-Henri Azéma, milite alors à l'Action française. Collaborateur du gouvernement de Vichy pendant l'occupation, il fuit à la Libération en Argentine et abandonne alors son fils, âgé d'à peine 8 ans. Jean-Pierre Azéma va donc être éduqué par sa grand-mère. Il suit un parcours classique avant d'être agrégé d'histoire en 1961. Devenu enseignant, notamment à l'Institut d'études politiques de Paris à la fin des années 70, Jean-Pierre Azéma est aussi un grand chercheur. Il est l'un des premiers à s'être attaqué à l'histoire de Vichy à une époque où il était encore difficile de travailler sur le sujet. Il publie plusieurs ouvrages fondateurs, comme De Munich à la Libération en 1979, ainsi que plusieurs biographies, notamment celle de Jean Moulin. On pouvait entendre ce grand spécialiste de la Résistance en parler à l'antenne de France Culture. C'était en 1988, dans l'émission L'Histoire en direct.
Quand se termine la mission de Jean Moulin, une bonne partie des résistants est persuadée que, à l'automne 1943, un débarquement aura lieu en France, qu'avant que les feuilles de l'automne ne tombent, les forces anglo-saxonnes pourront débarquer.
Chercheur méthodologique Jean-Pierre Azéma est également, en 1988, cité par les parties civiles au procès de Maurice Papon. Peu enthousiaste à l'idée d'être un historien médiatique, ce collaborateur de la revue L'Histoire avait néanmoins accepté d'être le conseiller historique de la série Un village français, diffusée à partir de 2009 sur France 3. Véritable vulgarisateur, l'historien voulait que les Français puissent regarder en face, tout comme lui, leur propre passé.
Le Conseil d'État rétablit la vérification de l'âge des utilisateurs des sites pornographiques européens et ceux aussi installés hors de France. Saisi par le gouvernement, la plus haute juridiction administrative a invalidé la décision de suspension de l'arrêté imposant cette mesure. YouPorn et Pornhub face au mur, les manœuvres juridiques pour ne pas protéger les enfants ne fonctionnent pas, s'est félicitée la ministre chargée du numérique, Clara Chabas. Des affrontements intercommunautaires entre Damas et Bédouins dans le sud de la Syrie ont poussé le nouveau régime de Damas à intervenir militairement. Des forces gouvernementales syriennes ont été envoyées sur place pour tenter de ramener le calme dans la ville de Souéda. Un cessez-le-feu a été instauré, mais des habitants sur place témoignent d'exécutions, de pillages et de maisons brûlées. Notre correspondant sur place, Mohamed Erami, a pu se rendre à Souéda, écouter son reportage.
À Souéda, dans le sud de la Syrie, les affrontements ont transformé la plus grande ville druze du pays en un champ de bataille. Dans l'un des hôpitaux proches du gouvernorat, tenu par le ministère de la Santé, les ambulances arrivent sans discontinuer. Civils et militaires blessés sont évacués depuis les lignes de front. Le directeur parle de chaos, trop peu de personnel, pas assez de matériel et un flux constant de blessés graves. En ville, les rues sont désertes, devant certaines maisons en flammes, des corps gisent encore, recouverts à la hâte. Une fumée âcre stagne dans les quartiers touchés, les vitrines des magasins sont brisées, des hommes casqués, armés, repartent avec des cartons, certains pillards à moto profitent du vide. Des pick-up de l'armée et de la sécurité intérieure patrouillent, on voit des soldats entrer dans des habitations, d'autres fouillent, les tirs se sont espacés, mais la peur reste palpable.
Le Kremlin continue de jouer la montre tout en se disant prêt à négocier avec l'Ukraine. Moscou précise avoir encore besoin de temps pour répondre au président américain Donald Trump qui a annoncé hier donner 50 jours à la Russie pour mettre fin au conflit sous peine de sanctions sévères. Ce n'est pas la partie la plus fréquentée par les touristes qui préfèrent sa rive sud. La rive nord du parc du Grand Canyon en Arizona est inaccessible à cause d'un incendie. La zone nord sera fermée durant toute la saison jusqu'à mi-octobre et c'est la foudre qui aurait provoqué le départ du feu. Aux États-Unis, la correspondance d'Ajera Mohamed.
Ces incendies ont pris de l'ampleur depuis la semaine dernière. Nourris par la foudre et par des vents violents, aucune victime n'est recensée pour le moment, mais plus de 500 touristes et habitants ont tout de même été évacués du parc. Plusieurs centaines d'hectares de végétation ont brûlé. Des bâtiments aussi, notamment un hôtel historique datant des années 30, avec vue imprenable sur l'immense gorge creusée dans la roche rougeâtre. 4,5 millions de touristes visitent chaque année le Grand Canyon. Plutôt sa rive sud, certes, mais la fréquentation du site risque bien d'en pâtir. Alors que le débat autour de la gestion des incendies est relancé, au départ, les pompiers n'ont pas cherché à éteindre le plus grand, celui qui se rapprochait du canyon. Ils l'ont traité comme un feu contrôlé et l'ont laissé brûler. Tout cela aussi dans un contexte de coupes budgétaires imposées à l'Agence nationale des forêts par l'administration de Donald Trump. La gouverneure démocrate de l'État, Kathy Hobbs, réclame une enquête indépendante. Les habitants de l'Arizona, dit-elle, mérite des réponses.
La justice brésilienne réclame la condamnation de Jair Bolsonaro pour coup d'État et association criminelle armée. L'ex-président d'extrême droite encourt jusqu'à 40 ans de prison à l'issue de son procès devant la Cour suprême du Brésil. Jair Bolsonaro avait tenté en 2022 de se maintenir au pouvoir après la victoire aux élections du président Lula. Un sacré coup de bambou pour avoir, disait-il, juste coupé un arbre, deux Britanniques qui avaient tronçonné. Une nuit de septembre 2023, un érable sycomore majestueux, centenaire, l'un des arbres les plus photographiés dans le nord de l'Angleterre. Ils ont été condamnés à 4 ans et 3 mois de prison. Même peine pour deux complices, deux criminels devenus ennemis puisqu'ils se sont rejetés la responsabilité du tronçonnage. À Londres, la correspondance de Laura Calmus.
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2023, Daniel Graham et Adam Carruthers, deux amis de Cambria dans le nord-ouest de l'Angleterre, s'étaient rendus au pied du mur d'Adrien, une ancienne fortification romaine classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils apportent avec eux une tronçonneuse et un plan bien ficelé. Ils ont abattu, en pleine nuit, le sycamore gap tree, un érable centenaire emblématique mondialement connu depuis le film de Robin des Bois avec Kevin Costner. Un acte insensé de destruction délibérée selon le procureur, qui a souligné la préméditation, l'usage d'un véhicule, de spray de marquage et même le fait que l'un a filmé l'autre en pleine action. Un morceau du tronc a été emporté comme trophée et ni la tronçonneuse ni cette pièce n'ont été retrouvées. Lors du procès, chacun a tenté de rejeter la faute sur l'autre. L'un évoque une bêtise en état d'ébriété et l'autre parle d'un coup monté. Mais pour la juge, c'est la recherche de frissons et de notoriété qui les a motivés. Leur geste a provoqué une vague de colère et de tristesse dans tout le pays. Le tronc tombé sur le mur d'Adrien a même causé des dégâts archéologiques. Mais tout n'est pas perdu. De jeunes pousses ont émergé et l'arbre renaîtra bientôt.
Le temps demain, mercredi 16 juillet, du soleil dans le sud et des nuages avec quelques pluies sur le nord. Les températures maximales afficheront 19 à 23 degrés en bord de la Manche, généralement 24 à 35 degrés du nord au sud, jusqu'à 39 degrés dans le Var. C'est la fin de cette édition de ce journal préféré avec Jean-François, préparé même avec Jean-François Braun et à la technique Ludovic Auger.